RFI, Radio France International.
Bonjour, Michelangelo Pistoletto. On venait d'avoir visité votre grande exposition à Paris. On voit ces miroirs cassés, ces mots en toutes les langues, en arabe, en chinois, qui signifient respect, et aussi oui. Les différentes formes de miroirs incrustés sur la chaise, sur le mur, avec différentes images. On a une impression, ce sont des hommes, des sociétés, ces reflets, ces interactions, et en fait, c'est une grande mise en scène d'une société et une réflexion de soi, n'est-ce pas?
Oui, ce sont des tableaux miroirs, des tableaux dans lesquels il y a une image fixée qui est prise par une photo dans un moment présent, qui est fixée sur une surface miroitante, laquelle reproduit la réalité en telle qu'elle se passe devant le miroir. Donc c'est la réalité en image dans le tableau qui change toujours, parce que reflet le spectateur et l'espace devant le miroir, devant le tableau qui a un fond miroir, et les figures humaines ou les objets qui sont fixés comme des moments qui sont passés, mais ils ont été fixés par la photo, donc il y a le passé qui revient toujours dans le présent.
En fait, c'est une métaphore évolutive qui sans cesse change, évolue, qui embrasse la réalité changeante, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, exactement. Oui.
Comment avez-vous trouvé cette moyen de plasticité qui arrive parfaitement, embrasse la réalité évolutive?
J'ai commencé à travailler sur la figure humaine en recherchant mon identité. Mon identité, c'était travailler en la recherche à travers le autoportrait. Pour faire un autoportrait, il faut avoir un miroir. Alors le miroir est un instrument nécessaire, mais en même temps, je voulais que cette fixité qu'on trouve toujours dans les tableaux ne soit plus figée comme dans le passé, mais avoir aussi dans mon autoportrait la dynamique des images qui changent toujours dans le miroir dans lequel je me regarde pour faire mon autoportrait. Donc c'est l'autoportrait de l'artiste qui devient l'autoportrait du monde. Les gens entrent dans mon autoportrait et je suis avec le monde entier dans mon tableau.
Non seulement vous êtes à Paris et vous êtes allé à Pékin, je crois, vous allez bientôt à Havane, à Cuba, à Musée national des beaux-arts.
C'est le musée d'art moderne et passé, de l'art ancien et de l'art moderne de l'Havana. Je fais une grande exposition là-bas. En même temps, on fait une activité qui prend toute la ville en charge, avec une activité avec les gens de la ville pour faire que pas seulement les gens se reflètent dans mes œuvres, mais mes œuvres sont activisées pour créer un rapport entre l'art et la société de l'Havane, parce que là-bas, il y a à ce moment un changement très fort. C'est la fin de ce qui a été le système communiste qui a divisé le monde avec le capitalisme. Et aujourd'hui, ça commence peut-être une nouvelle ère de ce pays. Et c'est là que je vais amener mon signe, le signe du troisième paradis, c'est-à-dire le signe d'une troisième situation qui va se développer à partir d'aujourd'hui.
Ça a l'air un peu taoïste chinois, c'est-à-dire un paradis ailleurs, pas dans cette existence, dans une autre existence.
Non, c'est le contraire. Le paradis est dans cette existence et il faut que nous soyons nous-mêmes à le produire. Le premier paradis, c'était quand les êtres humains étaient totalement englobés dans la nature. Mais après, on est sorti de la nature et on a créé le monde artificiel, et qui est le deuxième paradis. Nous, on vit dans le deuxième paradis, qui est le monde artificiel. Ce paradis artificiel, il porte du bien, mais il porte aussi du mal à l'humanité et au globe, à la Terre. Donc, il faut passer à un troisième stade de l'humanité dans lequel on met ensemble la nature et l'artifice. Le premier et le deuxième paradis, par en créer un troisième qui doit être fait par nous-mêmes.
C'est clair, vous allez montrer votre art à Cuba et en même temps vous invite Cuba dans votre art. Donc c'est une sorte d'interaction que vous allez installer.
Oui, oui.
Est-ce que les Cubains, les jeunes Cubains que vous invitez, ils comprendront votre démarche? Parce que pour les jeunes étudiants de Beaux-Arts à Cuba, dans leur tête, pour l'instant, l'art, ce n'est que tableau, ce n'est que sculpture. Ils connaissent Michelangelo, sculpteur, mais peut-être pas encore Michelangelo, pistoletto, grand installateur.
Je ne travaille pas seulement pour englober les artistes des Beaux-Arts, je travaille pour englober tout le monde, c'est-à-dire la société, société en général, donc tous les secteurs de la société, de l'économie à la politique, à la communication, l'architecture, l'éducation, tout va être matière pour une transformation artistique. Donc c'est à partir de Cuba qu'il faut recommencer une transformation. Après la grande division du monde, qui a divisé le capitalisme et le communisme, là-bas à Cuba, on a le dernier moment, c'est-à-dire le moment dans lequel on recommence, on peut recommencer une nouvelle société, mais il faut voir comment on peut trouver les oppositions, c'est-à-dire tous ceux qui sont les conflits, les grands problèmes qui sont présents dans notre temps, pour trouver un équilibre. Tout ce qui est formé par des contrastes, des contradictions, il doit trouver au centre de ce signe que j'ai fait, il doit trouver la connexion et la création d'une nouvelle situation, qui est une nouvelle société. Alors Cuba, c'est le lieu très expressif et aussi le lieu exact pour repartir là où il paraît que l'histoire de la guerre froide est finie.
Est-ce que vous pensez, pour le troisième paradis, Cuba est une terre idéale, comme un laboratoire pour faire ça?
C'est exactement ce que je viens de dire. Nous avons fait le troisième paradis sur la mer de Cuba avec les bateaux, avec les pêcheurs. Et le jour après, Obama a téléphoné à Raúl Castro pour lui dire « Est-ce qu'on peut commencer peut-être un nouveau chemin ensemble ?» Nous, on a fait cet annoncement du changement à travers le troisième paradis le jour avant. Donc maintenant, il faut continuer parce que nous sommes maintenant liés à ce moment de changement qui va être très important pour le monde entier là-bas à Cuba.
Dans ce cas-là, est-ce que comme chercheur politique, d'une part, et d'autre part, artiste plasticien, vous avez double rôle. Est-ce que ces rôles, pour vous, sont convergés dans le même corps ou bien ces deux rôles séparés?
C'est un rôle unique parce que l'art est la création. Tout ce qu'on fait dans la société, c'est toujours de la création. Rien reste comme toujours. Il y a toujours des changements. Il y a toujours des situations nouvelles. Le monde entier est toujours en mouvement. Il y a toujours une création qui se passe. Et l'humanité est basée, tout le système humain est basé sur la créativité. Donc, moi, autant qu'artiste, je sens que je dois être un maître de création dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine plastique, dans tous les domaines.
En fait, pour vous, votre art est un moyen politique. Et votre politique s'inscrit aussi dans votre art, dans votre plasticité.
Oui, bien sûr, mais j'ai créé à Biel une institution qui s'appelle Città dell'Arte, c'est-à-dire la cité de l'art. Mais la cité, c'est quelque chose qui peut être petit ou peut être très grand. Et alors, moi, je pense que l'art doit créer la nouvelle cité. Encore, on pourrait dire en plus, créer la nouvelle civilisation. L'art pour une nouvelle civilisation.
Dans cette quête de nouvelle civilisation, quelle est votre attitude? Pour vous, c'est un jeu de magicien qui fait un spectacle ou bien vous inscrivez dans une véritable démarche politique?
Il y a une véritable démarche politique dans un sens scientifique parce que le signe qui est fait par trois boucles, ce signe a mis ensemble les oppositions dans la boucle de gauche et de droite, c'est-à-dire deux boucles extérieures, représentent toutes les différences et les contradictions. Mais si on trouve la façon d'équilibrer au centre toutes les oppositions, on arrive à créer une nouvelle réalité, un nouveau sujet qui n'existait pas. Donc c'est la création, c'est le symbole pratique de la création. Mettre ensemble ce qui est opposé, ce qui pourrait créer un conflit, qui pourrait créer une guerre, avec le troisième paradis, avec ceci, on trouve au centre de toutes les oppositions une solution qui est une création nouvelle de quelque chose qui va mettre de l'équilibre dans toutes les oppositions.
Vous ne pensez pas que Fidel Castro, dans sa jeunesse, il considéra lui-même aussi comme un créateur de politique et voudrait un nouveau modèle politique?
Tout ce qu'on fait est toujours une création, mais pas toujours, mais cette création dans un vrai équilibre. Aujourd'hui, surtout que nous avons un passé de contraste incroyable, contraste de religion, contraste de culture, contraste d'économie, nous devons aujourd'hui renouveler notre mentalité et créer un équilibre entre tous ces contrastes. Et cet équilibre est inscrit dans ce signe. C'est une recette qu'il faut regarder, bien comprendre et utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. C'est le passage à une nouvelle conception de la société, de la démocratie, ce qui est de la démocratie.
Justement, pour faire comprendre mieux nos auditeurs, votre principale préoccupation, si je ne me trompe pas, c'est sur les ressources capitales de société suite à l'évolution technologique. Justement, je prends l'exemple de votre ville Biala, et là, l'ancienne industrie traditionnelle, petit à petit, s'est réduite, et avec l'arrivée de nouvelles technologies mondialisées, on a l'impression que les ressources capitales sont de plus en plus concentrées sur 1% de population de ce monde. Et du coup, cette 1% de population qui ont la même fortune que les restants, c'est-à-dire 99% de population, donc, et cette société, elle est en train de déstabiliser. Est-ce que votre message, votre démarche, votre troisième paradis, et vous considérez c'est un moyen créatif pour répandre ce mal du siècle?
Nous, on doit aujourd'hui savoir commencer par mettre ensemble la nature et l'artifice. On ne peut pas continuer à faire que la science et la technologie nous amènent loin de la nature, ou bien même contre la nature, mais faire que la nature et la technologie puissent trouver un équilibre. Ça, on ne peut pas le faire avec un système de pouvoir qui vient de très haut. Il faut que chacun contribue à cette transformation. C'est quelque chose qu'il faut commencer à faire dans des petits lieux, les lieux moyens, des grands lieux, où les gens elles-mêmes, elles puissent prendre conscience de l'activité qu'il faut faire pour changer les choses. Donc, ce n'est plus seulement un commandement qui vient de haut, mais c'est aussi une participation diffusée de gens qui sont conscients de ce qui est nécessaire de faire pour arriver à ce monde soutenable.
Donc, vous êtes en train de cultiver et développer de très, très bons, selon vous, microbes.
Oui, c'est ça. Mais vous voyez, tout est organisé dans un sens chimique. À travers la dualité, il faut trouver le troisième élément qui est au centre. Par exemple, si vous voulez faire de l'eau, il faut prendre l'oxygène et l'hydrogène. Et ensemble, vous avez l'eau. Vous avez besoin toujours de deux éléments pour combiner un troisième élément qui n'existait pas. Donc c'est pour ça que c'est la création. C'est l'idée de la thèse et de l'antithèse. Et on a toujours une synthèse. Il y a toujours, dans toutes les choses, il y a deux éléments qu'il faut combiner pour en avoir un troisième. Et ce troisième, pour nous, est important qu'il soit un point d'équilibre, qui produit un équilibre entre les extrêmes qui sont opposés.
Monsieur Pistoletto, dans l'histoire, tous les grands penseurs, grands noms politiques, ils ont tous cherché à vendre leurs idées. Plus qu'ils arrivent à vendre leurs idées, et plus ils ont un succès sur leur approche. En tant qu'un très grand artiste comme vous, et comment vous vendez vos idées? Parce que si on va à galerie, on voit le prix de votre œuvre, c'est très important.
Les prix de mes œuvres viennent des œuvres spécifiques que je produis personnellement. qui sont des œuvres qui ont eux-mêmes le concept qui amène au troisième paradis. Et ces œuvres-là sont en vente. Le dessin du troisième paradis, le projet, ce n'est pas à vendre. C'est quelque chose comme une formule mathématique. Une fois qu'on a trouvé une formule mathématique, cette formule est de tout le monde, n'est pas privée, ne peut plus être privée, vous comprenez?
Depuis Bauhaus, les artistes cherchent à être devenus mathématiciens, une combinaison entre philosophe et mathématicien. Vous pensez, depuis votre expérimentation, vous pourrez vraiment mettre mathématiques fonctionnelles dans votre démarche politique et plastique?
Il y a de l'espace pour tous les éléments. L'art peut être musique, peut être image, peut être émotion, peut être la raison. Il faut mettre ensemble l'esthétique et l'éthique. Moi, je travaille dans les deux sens. Je mets ensemble les deux choses. De l'esthétique, la forme, et le contenu éthique, morale. La morale et la forme. Comment on peut créer la morale? Qu'est-ce que c'est la morale? La morale, c'est la connexion de deux éléments contraposés et c'est l'équilibre qu'on trouve entre ces deux éléments contraposés. C'est le concept ancien de bien et de mal, le monstre et son contraire. On a toujours le négatif et le positif. Mais en même temps, on peut utiliser le positif et le négatif pour faire de la chimie. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre le négatif et le positif pour faire une batterie électrique. Hein? Mais en même temps, vous pouvez mettre le concept de bien et de mal dans chaque chose, le rapport entre deux conceptions opposées qui trouvent un équilibre au centre. Cet équilibre que vous trouvez au centre, c'est la morale.
Dans votre exposition, vous employez plusieurs langues. Par exemple, cette exposition à Paris vous a créé respect, mais en arabe et en chinois. Vous croyez qu'à Cuba, et les Cubains, ils comprendront arabe et chinois?
Quel est le mot que vous avez lu en cubain et en chinois? Quel est le mot?
Respect.
Respect. Le mot respect à Cuba est écrit en espagnol. En France, c'est écrit en français. En Angleterre, c'est écrit en anglais. C'est toujours le respect qui compte, ce n'est pas la langue. C'est pour ça que j'ai utilisé toutes les langues, parce que tout le monde puisse utiliser le concept du respect. Le respect est la première chose qu'il faut pour trouver cet équilibre dans l'échange. Je dois respecter votre culture et vous devez respecter la mienne. Comme ça, peut-être, même si on a des idées opposées, on peut petit à petit commencer à se parler et trouver peut-être quelque chose en commun. Mais s'il n'y a pas de respect réciproque, on n'arrive jamais à dépasser le concept de la guerre.
Qu'est-ce que vous attendez à Cuba suite à cette exposition du 25 novembre?
Je m'attends de parler, de continuer à travailler avec tous les différents secteurs de la société, avec le forum. On a fait un forum il y a un an. Cette année, on refait, c'est-à-dire en novembre, on refait le forum où tout le monde qui a participé au premier a travaillé pendant toute l'année. Il y a des gens des écoles, des gens du gouvernement, les gens de l'art plastique et les gens de la recherche physique et technique. Donc, tous ensemble, on continue à travailler pour amener des conseils au gouvernement de façon que le gouvernement puisse, s'il veut et s'il peut, arriver peut-être à des conclusions qui produisent une nouvelle activité publique, mais qui va comprendre tous les aspects de la société cubaine. Mais si on arriverait, si on arrive à faire quelque chose comme ça, de créer de nouveaux équilibres à partir de la société cubaine, on pourra peut-être trouver de nouveaux équilibres dans le reste du monde.
J'ai l'impression que vous avez des plaisirs, vous trouvez des plaisirs et énergie en Cuba que vous ne trouvez pas ailleurs.
Non, parce que Cuba est le dernier pays qui a continué à résister au monde capitaliste. Mais finalement, les choses doivent changer. Parce que le communisme a totalement fait faillite en Russie et partout dans le reste du monde. Mais à Cuba, encore, il existe. C'est le dernier endroit où il y a une sorte de nécessité de dépasser le système communiste. Mais je leur dis et je dis à tout le monde que le capitalisme a vaincu parce que le communisme est tombé à cause qu'en Russie est devenue une dictature et la dictature est juste l'opposé du concept de communauté. Donc la dictature a détruit le communisme, la dictature russe, mais le problème qui a déterminé la naissance du concept du communisme n'est pas fini, n'a jamais été résolu. Donc le problème continue à exister, même si le capitalisme, maintenant, il est le seul élément qui reste. Mais la différence aujourd'hui, c'est aussi que la science et la technologie peuvent nous aider comme un élément très important, très fort, avec l'art et la création, de faire un passage nouveau vers un nouveau équilibre.
Apparemment, en ce moment, à Cuba, il n'y a pas marché de l'art. Donc, vous prenez plaisir de faire des expérimentations à la fois politiques et artistiques à Cuba, mais quand il n'y a pas de marché d'art sur place, comment vous réagissez sur ce? Vous vous en foutez ou...
Ce n'est pas nécessaire d'avoir un marché. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un marché pour faire passer des idées importantes. Le marché, on peut toujours le trouver ailleurs. Il y a toujours un marché partout dans le monde et qui permet de faire de l'économie. Par exemple, la galerie Continua, c'est la première galerie d'art à Pékin. La galerie Continua, elle n'est pas allée à Pékin. Ça fait presque 20 ans, je ne sais pas quand elle est allée là-bas, à Pékin. La galerie Continua ne gagnait pas un sou, mais elle a porté l'art occidental à partir de l'Italie. Et la galerie Continua continue à exister à Pékin. Elle vend, après un certain moment, les choses changent et l'économie peut fonctionner.
Donc, la force de l'art, finalement, c'est la force de l'idée.
Absolument. La force de l'idée, il faut aussi, et pour moi c'est très important, que l'idée, que le concept, l'imagination se transforme en réalité. Je ne m'arrête pas à regarder l'art, mais je veux que l'art fonctionne dans la réalité de la société.
Avec un rôle actif.
Un rôle actif, yes. Mais je ne peux plus non plus être l'artiste unique, seul. Si je suis seul, je ne peux pas changer beaucoup de choses dans le monde. Mais seulement si nous travaillons ensemble, et dans le sens que chacun, chaque personne du peuple, petit à petit, devient de plus en plus artiste, a la faculté de créer le monde d'une façon équilibrée. Et ce monde, il faut l'auteur de ce monde, ce n'est plus seulement un, mais c'est nous tous. Chaque personne peut devenir co-auteur. Co-auteur, ça veut dire travailler ensemble, créer ensemble. La société nouvelle est faite par des gens qui sont un peu plus artistes que c'était avant.
Merci beaucoup, Michelangelo Pistoletto.
Merci à vous, merci à vous.
Merci, à très bientôt, au revoir. RFI 法国国际广播电台